Chapitre 6. Enfoncé dans un vaste fauteuil à oreillettes, les pieds sur les poires en vermeil des chenets, les pantoufles rôties par les bûches qui dardaient en crépitant comme cinglées par le souffle furieux d'un chalumeau de vive flamme, des Esseintes posa le vieil in-quarto qu'il lisait sur une table, s'étira, alluma une cigarette, puis il se prit à rêver délicieusement, lancé à toute bride sur une piste de souvenirs effacés depuis des mois et subitement retracés par le rappel d'un nom qui s'éveillait sans motif du reste dans sa mémoire. Il revoyait avec une surprenante lucidité la gêne de son camarade d'Algurande lorsque, dans une réunion de persévérants célibataires, il avait dû avouer les derniers apprêts d'un mariage. On se récria, on lui peignit les abominations des sommeils dans le même linge, rien n'y fit. La tête perdue, il croyait à l'intelligence de sa future femme et prétendait avoir discerné chez elle d'exceptionnelles qualités de dévouement et de tendresse. Seul parmi ces jeunes gens, Des Esseintes encouragea ses résolutions dès qu'il eut appris que sa fiancée désirait loger au coin d'un nouveau boulevard, dans l'un de ses modernes appartements tournés en rotonde. Convaincu de l'impitoyable puissance des petites misères, plus désastreuses pour les tempéraments bien trempés que les grandes, et se basant sur ce fait que Delgurand ne possédait aucune fortune et que la dot de sa femme était à peu près nulle, il aperçut dans ce simple souhait une perspective infinie de ridicules maux. En effet, Delgurand acheta des meubles façonnés en rond, des consoles évidées par derrière, faisant le cercle, des supports de rideaux en forme d'arc, des tapis taillés en croissant, tout un mobilier fabriqué sur commande. Il dépensa le double des autres, puis, quand sa femme, à court d'argent pour ses toilettes, se lassa d'habiter cette rotonde et s'en fut occuper un appartement carré, moins cher, aucun meuble ne put ni cadrer ni tenir. Peu à peu, cet encombrant mobilier devint une source d'interminables ennuis. L'entente, déjà fêlée par une vie commune, s'effrita de semaine en semaine. Ils s'indignèrent, se reprochant mutuellement de ne pouvoir demeurer dans ce salon où les canapés et les consoles ne touchaient pas au mur et branlaient aussitôt qu'on les frôlait, malgré leur cale. Les fonds manquèrent pour des réparations, du reste presque impossibles. Tout devint sujet à aigreur et à querelle, tout, depuis les tiroirs qui avaient joué dans les meubles mal d'aplomb, jusqu'au larcin de la bonne qui profitait de l'inattention des disputes pour piller la caisse. Bref, la vie leur fut insupportable. Lui s'égaya au dehors, elle quêta parmi les expédients de l'adultère l'oubli de sa vie pluvieuse et plate. D'un commun avis, ils résilièrent leur bail et requérirent la séparation de corps. Mon plan de bataille était exact, c'était alors dit Des Esseintes, qui éprouva cette satisfaction des stratégistes dont les manœuvres prévues de loin réussissent. Et, en songeant actuellement devant son feu au bris de ce ménage qu'il avait aidé par ses bons conseils à s'unir, il jeta une nouvelle brassée de bois dans la cheminée et il repartit à toute volée dans ses rêves. Appartement au même ordre d'idées, d'autres souvenirs se pressaient maintenant. Et il y avait de cela quelques années, il s'était croisé rue de Rivoli un soir avec un galopin d'environ 16 ans, un enfant pâleau et futé, tentant de même qu'une fille. Il suçait péniblement une cigarette dont le papier crevait, percé par les bûches pointues du caporal. Tout en pestant, il frottait sur sa cuisse des allumettes de cuisine qui ne partaient point. Il les usa toutes. Apercevant alors Des Esseintes qu'il observait, il s'approcha, la main sur la visière de sa casquette, et lui demanda poliment du feu. Des Esseintes lui offrit d'aromatiques cigarettes de Dubec, puis il entama la conversation et incita l'enfant à lui conter son histoire. Oh, elle était des plus simples. Il s'appelait Auguste Langlois, travaillait chez un cartonnier, avait perdu sa mère et possédait un père qui le battait comme plâtre. Des Esseintes l'écoutait pensif. « Viens boire, » dit-il, et il l'emmena dans un café où il lui fit servir de violents punchs. L'enfant buvait sans dire mot. « Voyons, » fit tout à coup Des Esseintes, « veux-tu t'amuser ce soir ? C'est moi qui paye. » Et il avait emmené le petit chez Madame Laure, une dame qui tenait rue Mosnier au 3e, un assortiment de fleuristes dans une série de pièces rouges ornées de glaces rondes, meublées de canapés et de cuvettes. Là, très ébahi, Auguste avait regardé, en pétrissant le drap de sa casquette, un bataillon de femmes dont les bouches peintes s'ouvrirent toutes ensemble. « Oh, le môme, tiens, il est gentil !»« Mais dis donc, mon petit, tu n'as pas l'âge ?» avait ajouté une grande brune aux yeux à fleur de tête, au nez busqué, qui remplissait chez Madame Laure l'indispensable rôle de la belle juive. Installé presque chez lui, Des Esseintes causait avec la patronne à voix basse. « Mais n'aie donc pas peur, bêta, » reprit-il, s'adressant à l'enfant. « Allons, fais ton choix, je régale !» Et il poussa doucement le gamin, qui tomba sur un divan entre deux femmes. Elles se serrèrent un peu sur un signe de madame, enveloppant les genoux d'Auguste avec leur peignoir, lui mettant sous le nez leurs épaules poudrées d'un givrant étang et tiède, et il ne bougeait plus, le sang aux joues ou la bouche rêche, les yeux baissés, hasardant en dessous des regards curieux qui s'attachaient obstinément au haut des jambes. Vanda, la belle juive, l'embrassa, lui donnant de bons conseils, lui recommandant d'obéir à ses pères et mères, et ses mains erraient en même temps, avec lenteur, sur l'enfant dont la figure changée se pâmait sur son cou à la renverse. « Alors, c'est pas pour ton compte que tu viens ce soir, » dit à Des Esseintes Madame Laure. « Mais où diable as-tu levé ce bambin ?» reprit-elle, quand Auguste disparut, emmené par la belle juive. « Dans la rue, ma chère. Mais tu n'es pourtant pas gris, » murmura la vieille dame. Puis, après réflexion, elle ajouta avec un sourire maternel. « Ah, je comprends, Matin, dis donc, il te les faut jeunes à toi. » Des Esseintes haussa les épaules. « Tu n'y es pas, oh, mais pas du tout, » fit-il. « La vérité, c'est que je tâche simplement de préparer un assassin. Suis bien en effet mon raisonnement. Ce garçon est vierge et atteint l'âge où le sang bouillonne. Il pourrait courir après les fillettes de son quartier, demeurer honnête, tout en s'amusant, avoir en somme sa petite part du monotone bonheur réservé aux pauvres. Au contraire, en l'amenant ici, au milieu d'un luxe qu'il ne soupçonnait même pas, et qui se gravera forcément dans sa mémoire, en lui offrant tous les 15 jours une telle aubaine, il prendra l'habitude de ses jouissances que ses moyens lui interdisent. Admettons qu'il faille 3 mois pour qu'elles lui soient devenues absolument nécessaires, et en les espaçant comme je le fais, je ne risque pas de le rassasier. Eh bien, au bout de ces 3 mois, je supprime la petite rente que je devais te verser d'avance pour cette bonne action, et alors il volera afin de séjourner ici. Il fera les 110 coups pour se rouler sur ce divan et sous ce gaz. En poussant les choses à l'extrême, il tuera, je l'espère, le monsieur qui apparaîtra mal à propos tandis qu'il tentera de forcer son secrétaire. Alors mon but sera atteint. J'aurais contribué, dans la mesure de mes ressources, à créer un gredin, un ennemi de plus, pour cette hideuse société qui nous rançonne. Les femmes ouvrirent de grands yeux. « Ah, te voilà !» reprit-il, voyant Augustin qui rentrait dans le salon et se dérobait, rouge et penaud, derrière la belle juive. « Allons, gamin, il se fait tard, salut ces dames !» Et il lui expliqua dans l'escalier qu'il pourrait chaque quinzaine se rendre sans bourse déliée chez Madame Laure. Puis une fois dans la rue sur le trottoir, regardant l'enfant abasourdi, « Oh, nous ne nous verrons plus, » fit-il. « Retourne au plus vite chez ton père, dont la main est inactive et le démange, et rappelle-toi cette parole quasi évangélique. Fais aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Avec cette maxime, tu iras loin. Bonsoir, et surtout ne sois pas ingrat. Donne-moi le plus tôt possible de tes nouvelles, par la voie des gazelles judiciaires. » Le petit Judas murmurait maintenant des essaintes en tisonnant ses braises. Dire que je n'ai jamais vu son nom figurer parmi les faits divers. Il est vrai qu'il ne m'a pas été possible de jouer serré, que j'ai pu prévoir, mais non supprimer certains aléas tels que les caronnes de la mer, l'or empoignant l'argent sans échange de marchandises. La toccade d'une de ses femmes pour Auguste qui a peut-être consommé au bout de ses 3 mois à l'œil, voire même les vices faisandés de la belle juive qui ont pu effrayer ce gamin trop impatient et trop jeune pour se prêter aux lents préambules et aux foudroyantes fins des artifices. À moi donc qu'il n'ait eu des démêlés avec la justice, depuis qu'étant à Fontenay, je ne lis plus de feuilles, je suis floué. Il se leva et fit plusieurs tours dans sa chambre. Ce serait tout de même dommage, se dit-il, car en agissant de la sorte, j'avais réalisé la parabole laïque, l'allégorie de l'instruction universelle qui, ne tendant à rien moins qu'à transmuer tous les gens des Langlois, s'ingénie au lieu de crever définitivement et par compassion les yeux des misérables, allait leur ouvrir tout grand et de force, pour qu'ils aperçoivent autour d'eux des sorts immérités et plus cléments, des joies plus laminées et plus aiguës, et par conséquent plus désirables et plus chères. Et le fait est, continua des Essaintes, poursuivant son raisonnement, le fait est que, comme la douleur est un effet de l'éducation, comme elle s'élargit et s'assiert à mesure que les idées naissent, plus on s'efforcera d'équarrir l'intelligence et d'affiner le système nerveux des pauvres diables, et plus on développera en eux les germes si furieusement vivaces de la souffrance morale et de la haine. Les lampes charbonnaient, il les remonta et consulta sa montre. 3 heures du matin, il alluma une cigarette et se replongea dans la lecture interrompue par ses rêveries du vieux poème latin « De laude castitatis » de la louange de la chasteté, écrit sous le règne de Gondebald par Avitus, évêque métropolitain de Vienne. Chapitre 7. Depuis cette nuit où, sans cause apparente, il avait évoqué le mélancolique souvenir d'Auguste Langlois, il revécut toute son existence. Il était maintenant incapable de comprendre un mot au volume qu'il consultait, ses yeux mêmes ne lisaient plus, il lui sembla que son esprit, saturé de littérature et d'art, se refusait à en absorber davantage. Il vivait sur lui-même, se nourrissait de sa propre substance, pareil à ces bêtes engourdies tapies dans un trou pendant l'hiver. La solitude avait agi sur son cerveau de même qu'un narcotique. Après l'avoir tout d'abord énervé et tendu, elle amenait une torpeur hantée de songeries vagues. Elle annihilait ses desseins, brisait ses volontés, guidait un défilé de rêves qu'il subissait passivement, sans même essayer de s'y soustraire. Le tas confus des lectures, des méditations artistiques, qu'il avait accumulée depuis son isolement ainsi qu'un barrage pour arrêter le courant des anciens souvenirs, avait été brusquement emporté, et le flot s'ébranlait, culbutant le présent, l'avenir, noyant tout sous la nappe du passé, emplissant son esprit d'une immense étendue de tristesse, sur laquelle nageaient, semblables à de ridicules épaves, des épisodes sans intérêt de son existence, des riens absurdes. Le livre qu'il tenait à la main tombait sur ses genoux. Il s'abandonnait, regardant, plein de dégoût et d'alarme, défiler les années de sa vie défunte. Elle pivotait, ruisselait maintenant autour du rappel de Madame Laure et d'Auguste, enfoncée dans ses fluctuations comme un pieu ferme, comme un fait net. Quelle époque celle-là ! C'était le temps des soirées dans le monde, des courses, des parties de cartes, des amours commandés à l'avance, servis à l'heure, sur le coup de minuit, dans son boudoir rose. Il se remémorait des figures, des mines, des mots nuls qui l'obsédaient, avec cette ténacité des airs vulgaires qu'on ne peut se défendre de fredonner, mais qui finissent par s'épuiser tout à coup, sans qu'on y pense. Cette période fut de courte durée. Il eut une sieste de mémoire, se replongea dans ses études latines afin d'effacer jusqu'à l'empreinte même de ses retours. Le branle était donné. Une seconde phase succéda presque immédiatement à la première, celle des souvenirs de son enfance, celle surtout des ans écoulés chez les pères. Cela a été plus éloigné et plus certain, gravé d'une façon plus accusée et plus sûre. Le parc touffu, les longues allées, les plates-bandes, les bancs, tous les détails matériels se levèrent dans sa chambre. Puis les jardins s'emplirent. Il entendit résonner les cris des élèves, les rires des professeurs se mêlant aux récréations, jouant à la paume, la soutane retroussée, serrée entre les genoux, bien causant avec les jeunes gens, sans pause ni morgue, ainsi que des camarades du même âge, sous les arbres. Il se rappela le joug paternel qui s'accommodait mal des punitions, se refusait à infliger des 500 et des 1000 vers, se contentait de faire réparer, tandis que les autres s'amusaient, la leçon pas sue, recourait plus souvent à la simple réprimande, entourait l'enfant d'une surveillance active mais douce, cherchant à lui être agréable, consentant à des promenades où bon lui semblait le mercredi, saisissant l'occasion de toutes les petites fêtes non carillonnées de l'église, pour ajouter à l'ordinaire des repas, des gâteaux et du vin pour le régaler de parties de campagne. Un joug paternel qui consistait à ne pas abrutir l'élève, à discuter avec lui, à le traiter déjà en homme, tout en lui conservant le dorlotement d'un bambin gâté. Ils arrivaient ainsi à prendre sur l'enfant un réel ascendant, à pétrir dans une certaine mesure les intelligences qu'il cultivait, à les diriger dans un sens, à les greffer d'idées spéciales, à assurer la croissance de leurs pensées par une méthode insinuante et pateline, qu'il continuait en s'efforçant de les suivre dans la vie, de les soutenir dans leur carrière, en leur adressant ces lettres affectueuses, comme le Dominicain Lacordaire savait en écrire à ses anciens élèves de Sorèze. Des Esseintes se rendait compte par lui-même de l'opération qu'il se figurait avoir sans résultat subi. Son caractère rebelle aux conseils pointilleux, fureteur, porté aux controverses, l'avait empêché d'être modelé par leur discipline, asservi par leurs leçons. Une fois sorti du collège, son scepticisme s'était accru. Son passage au travers d'un monde légitimiste, intolérant et borné, ses conversations avec d'inintelligents marguilliers et de bas abbés dont les maladresses déchiraient le voile si savamment tissé par les jésuites, avait encore fortifié son esprit d'indépendance, augmenté sa défiance en une foi quelconque. Il s'estimait en somme dégagé de tout lien, de toute contrainte. Il avait simplement gardé, contrairement à tous les gens élevés dans les lycées ou les pensions laïques, un excellent souvenir de son collège et de ses maîtres. Et voilà que maintenant, il se consultait, on arrivait à se demander si les semences tombées jusqu'à ce jour dans un sol stérile ne commençaient pas à poindre. En effet, depuis quelques jours, il se trouvait dans un état d'âme indescriptible. Il croyait pendant une seconde. Allait d'instinct à la religion, puis au moindre raisonnement, son attirance vers la foi s'évaporait. Mais il restait malgré tout plein de troubles. Il savait pourtant bien, en descendant en lui, qu'il n'aurait jamais l'esprit d'humilité et de pénitence vraiment chrétien. Il savait, à n'en pouvoir hésiter, que ce moment dont parle la Cordère, ce moment de la grâce, où le dernier trait de lumière pénètre dans l'âme et rattache à un centre commun les vérités qui sont éparses, ne viendrait jamais pour lui. Il n'éprouvait pas ce besoin de mortification et de prière, sans lequel, si l'on écoute la majeure partie des prêtres, aucune conversion n'est possible. Il ne ressentait aucun désir d'implorer un Dieu dont la miséricorde lui semblait des moins probables. Et cependant, la sympathie qu'il conservait pour ses anciens maîtres arrivait à le faire s'intéresser à leurs travaux, à leurs doctrines. Ces accents inimitables de la conviction, ces voix ardentes d'homme d'une intelligence supérieure lui revenaient, l'amenaient à douter de son esprit et de ses forces. Au milieu de cette solitude où il vivait, sans nouvel aliment, sans impression franchement subie, sans renouvellement de pensée, sans cet échange de sensations venues du dehors, de la fréquentation du monde, de l'existence menée en commun, dans ce confinement contre nature où il s'entêtait, toutes les questions oubliées pendant son séjour à Paris se posaient à nouveau comme d'irritants problèmes. La lecture des ouvrages latins qu'il aimait, d'ouvrages presque tous rédigés par des évêques et par des moines, avaient sans doute contribué à déterminer cette crise. Enveloppé dans une atmosphère de couvent, dans un parfum d'encens qui lui grisait la tête, il s'était exalté les nerfs et par une association d'idées, ses livres avaient fini par refouler les souvenirs de sa vie de jeune homme, par remettre en lumière ceux de sa jeunesse chez les pères. « Il n'y a pas à dire, » pensait des Essaintes, s'essayant à se raisonner, à suivre la marche de cette ingestion de l'élément jésuite à Fontenay. « J'ai depuis mon enfance, et sans que je l'aie jamais cru, ce levain qui n'avait pas encore fermenté. Ce penchant même que j'ai toujours eu pour les objets religieux en est peut-être une preuve. » Mais il cherchait à se persuader le contraire, mécontent de ne plus être maître absolu chez lui. Il se procura des motifs. Il avait dû forcément se tourner du côté du sacerdoce, puisque l'Église a seule recueilli l'art, la forme perdue des siècles. Elle a immobilisé, jusque dans la ville reproduction moderne, le contour des orfèvreries, gardé le charme des calices élancés comme des pétunias, des ciboires aux flancs purs. Préservé même dans l'aluminium, dans les faux émaux, dans les verres colorés, la grâce des façons d'antan. En somme, la plupart des objets précieux, classés au musée de Cluny et échappés par miracle à l'immonde sauvagerie des sans-culottes, proviennent des anciennes abbayes de France. De même que l'Église a préservé de la barbarie, au Moyen-Âge, la philosophie, l'histoire et les lettres, de même, elle a sauvé l'art plastique, amené jusqu'à nos jours ces merveilleux modèles de tissus de joaillerie que les fabricants de choses saintes gâtent le plus qu'ils peuvent, sans en pouvoir toutefois altérer la forme initiale exquise. Il n'y avait dès lors rien de surprenant à ce qu'il eût pourchassé ses antiques bibelots, qu'il eût, avec nombre de collectionneurs, retiré ses reliques de chez les antiquaires de Paris, de chez les brocanteurs de la campagne. Mais il avait beau invoquer toutes ses raisons, il ne parvenait pas à complètement se convaincre. Certes, en se résumant, il persistait à considérer la religion ainsi qu'une superbe légende, qu'une magnifique imposture, et cependant, en dépit de toutes ses explications, son scepticisme commençait à s'entamer. Évidemment, ce fait bizarre existait. Il était moins assuré maintenant que dans son enfance, alors que la sollicitude des jésuites était directe, que leur enseignement était inévitable, qu'il était entre leurs mains, leur appartenait corps et âme, sans lien de famille, sans influence, pouvant réagir contre eux du dehors. Il lui avait aussi inculqué un certain goût du merveilleux, qui s'était lentement et obscurément ramifié dans son âme, qui s'épanouissait aujourd'hui dans la solitude, et qui agissait quand même sur l'esprit silencieux, interné, promené dans le court manège des idées fixes. À examiner le travail de sa pensée, à chercher à en relier les fils, à en découvrir les sources et les causes, il en vint à se persuader que ses agissements pendant sa vie mondaine dérivaient de l'éducation qu'il avait reçue. Ainsi ses tendances vers l'artifice, ses besoins d'excentricité, n'étaient-ils pas en somme des résultats d'études spécieuses, de raffinements extraterrestres, de spéculations quasi-théologiques? C'était au fond des transports, des élans vers un idéal, vers un univers inconnu, vers une béatitude lointaine, désirable comme celle que nous promettent les Écritures. Il s'arrêta net, brisa le fil de ses réflexions. « Allons, se dit-il dépité, je suis encore plus atteint que je ne le croyais. Voilà que j'argumente avec moi-même ainsi qu'un casuiste. » Il resta songeur, agité d'une crainte sourde. Certes, si la théorie de Lacordaire était exacte, il n'avait rien à redouter puisque le coup magique de la conversion ne se produit point dans un sursaut. Il fallait, pour amener l'explosion, que le terrain fût longuement, constamment miné. Mais si les romanciers parlent du coup de foudre de l'amour, un certain nombre de théologiens parlent aussi du coup de foudre de la religion. En admettant que cette doctrine fût vraie, personne n'était alors sûr de ne pas succomber. Il n'y avait plus ni analyse à faire sur soi-même, ni pressentiment à considérer, ni mesure préventive à requérir. La psychologie du mysticisme était nulle. C'était ainsi, parce que c'était ainsi, et voilà tout. « Eh, je deviens stupide !» se dit des Essaintes. La crainte de cette maladie va finir par déterminer la maladie elle-même, si ça continue. » Il parvint à secouer un peu cette influence. Ses souvenirs s'apaisèrent, mais d'autres symptômes morbides parurent. Maintenant, les sujets de discussion le hantaient seul. Le parc, les leçons, les jésuites étaient loin. Il était dominé tout entier par des abstractions. Il pensait, malgré lui, à des interprétations contradictoires de dogmes, à des apostasies perdues, consigné dans l'ouvrage sur les conciles du père l'abbé. Des bribes de ses schismes, des bouts de ses hérésies qui divisèrent pendant des siècles les églises de l'Occident et de l'Orient lui revenaient. Ici, Nestorius, contestant à la Vierge le titre de mère de Dieu, parce que dans le mystère de l'incarnation, ce n'était pas le Dieu, mais bien la créature humaine qu'elle avait portée dans ses flancs. Là, Eutyches, déclarant que l'image du Christ ne pouvait ressembler à celle des autres hommes, puisque la divinité avait élu domicile dans son corps et en avait par conséquent changé la forme du tout au tout. Là encore, d'autres ergoteurs, soutenait que le Rédempteur n'avait pas eu du tout de corps, que cette expression des livres saints devait être prise au figuré. Tandis que Tertullien émettait son fameux axiome quasi-matérialiste « Rien n'est incorporel que ce qui n'est pas, tout ce qui est a un corps qui lui est propre. » Enfin, cette vieille question débattue pendant des ans, le Christ a-t-il été attaché seul sur la croix, ou bien la Trinité, une en trois personnes, a-t-elle souffert dans sa triple hypostase sur le givet du calvaire, le sollicitait et le pressait, et machinalement, comme une leçon jadis apprise, il se posait à lui-même les questions et se donnait les réponses. Ce fut durant quelques jours dans sa cervelle un grouillement de paradoxes, de subtilités, un vol de poils fendus en quatre, un écheveau de règles aussi compliqué que les articles de code, prêtant à tous les sens, à tous les jeux de mots, aboutissant à une jurisprudence céleste des plus ténues, des plus baroques. Puis le côté abstrait s'effaça à son tour, et tout un côté plastique lui succéda, sous l'action des Gustave Moreau pendus au mur. Il vit défiler toute une procession de prélats, des archimandrites, des patriarches, levant pour bénir la foule agenouillée, des bras d'or agitant leurs barbes blanches dans la lecture et la prière. Il vit s'enfoncer dans des cribes obscures des files silencieuses de pénitents. Il vit s'élever des cathédrales immenses où tonitruaient des moines blancs en chair. De même qu'après une touche d'opium de Quincey, au seul mot de consul Romanus, évoquait des pages entières de Tite-Live, regardait s'avancer la marche solennelle des consuls, s'ébranler la pompeuse ordonnance des armées romaines. Lui, sur une expression théologique, demeurait haletant, considérait des reflux de peuples, des apparitions épiscopales se détachant sur les fonds embrasés des basiliques. Ces spectacles le tenaient sous le charme, courant d'âges en âges, arrivant aux cérémonies religieuses modernes, le roulant dans un infini de musique lamentable et tendre. Là, il n'avait plus de raisonnement à se faire, plus de débat à supporter. C'était une indéfinissable impression de respect et de crainte. Le sens artiste était subjugué par les scènes si bien calculées des catholiques. À ses souvenirs, ses nerfs tressaillaient, puis en une subite rébellion, en une rapide volte, des idées monstrueuses naissaient en lui, des idées de ces sacrilèges prévus par le manuel des confesseurs, des ignominieux et impurs abus de l'eau bénite et de l'huile sainte. En face d'un dieu omnipotent, se dressait maintenant un rival plein de force, le démon, et une affreuse grandeur lui semblait devoir résulter d'un crime pratiqué en pleine église par un croyant s'acharnant dans une horrible allégresse, dans une joie toute sadique, à blasphémer, à couvrir d'outrage, à abreuver d'opprobre les choses révélées. Des folies de magie, de messe noire, de sabbat, des épouvantes de possession et d'exorcisme se levaient. Il en venait à se demander s'il ne commettait pas un sacrilège en possédant des objets autrefois consacrés, des canons d'église, des chasubles et des custodes. Et cette pensée d'un état pécamineux lui apportait une sorte d'orgueil et d'allègement. Il y démêlait des plaisirs de sacrilège, mais de sacrilège contestable en tout cas, peu grave, puisqu'en somme il aimait ces objets et n'en dépravait pas l'usage. Il se berçait ainsi de pensées prudentes et lâches, la suspicion de son âme lui interdisant des crimes manifestes, lui enlevant la bravoure nécessaire pour accomplir des péchés épouvantables, voulus, réels. Peu à peu, enfin, ses arguties s'évanouirent. Il vit, en quelque sorte, du haut de son esprit, le panorama de l'Église, son influence héréditaire sur l'humanité depuis des siècles. Il se la représenta, désolée et grandiose, énonçant à l'homme l'horreur de la vie, l'inclémence de la destinée. Prêchant la patience, la contrition, l'esprit de sacrifice, tâchant de panser les plaies en montrant les blessures saignantes du Christ, assurant des privilèges divins, promettant la meilleure part du paradis aux affligés, exhortant la créature humaine à souffrir, à présenter à Dieu comme un holocauste ses tribulations et ses offenses, ses vicissitudes et ses peines. Elle devenait véritablement éloquente, maternelle aux misérables, pitoyable aux opprimés, menaçante pour les oppresseurs et les despotes. Ici, des Hyacinthes reprenaient pied. Certes, il était satisfait de cet aveu de l'ordure sociale, mais alors il se révoltait contre le vague remède d'une espérance en une autre vie. Schopenhauer était plus exact. Sa doctrine et celle de l'Église partaient d'un point de vue commun. Lui aussi se basait sur l'iniquité et sur la turpitude du monde. Lui aussi jetait avec l'imitation de notre Seigneur cette clameur douloureuse « C'est vraiment une misère que de vivre sur la terre ». Lui aussi prêchait le néant de l'existence, les avantages de la solitude, avisait l'humanité que quoi qu'elle fît, de quelque côté qu'elle se tournât, elle demeurerait malheureuse, pauvre à cause des souffrances qui naissent des privations, riche en raison de l'invincible ennui qu'engendre l'abondance. Mais il ne vous prenait aucune panacée, ne vous berçait pour remédier à l'inévitable maux par aucun leurre. Il ne vous soutenait pas le révoltant système du péché originel, ne tentait point de vous prouver que celui-là est un dieu souverainement bon qui protège les chenapans, aide les imbéciles, écrase l'enfance, abétit la vieillesse et châtie les incoupables. Il n'exaltait pas les bienfaits d'une providence qui a inventé cette abomination, inutile, incompréhensible, injuste, inepte, la souffrance physique. Loin de s'essayer à justifier, ainsi que l'Église, la nécessité des tourments et des épreuves, il s'écriait dans sa miséricorde indignée « Si un Dieu a fait ce monde, je n'aimerais pas être ce Dieu. La misère du monde me déchirerait le cœur. » Ah ! Lui seul était dans le vrai. Qu'étaient toutes les pharmacopées évangéliques à côté de ses traits d'hygiène spirituelle ? Il ne prétendait rien guérir, n'offrait aux malades aucune compensation, aucun espoir. Mais sa théorie du pessimisme était en somme la grande consolatrice des intelligences choisies, des âmes élevées. Elle révélait la société telle qu'elle est, insistait sur la sottise innée des femmes, vous signalait les ornières, vous sauvait des désillusions, en vous avertissant de restreindre autant que possible vos espérances, de n'en point du tout concevoir si vous vous en sentiez la force, et de vous estimer enfin heureux si à des moments inopinés, il ne vous dégringolait pas sur la tête de formidables tuiles. Et non, élancée de la même piste que l'imitation, cette théorie aboutissait elle aussi, mais sans s'égarer, parmi de mystérieux dédales et d'invraisemblables routes, au même endroit, à la résignation, au laisser-faire. Seulement, si cette résignation, tout bonnement issue de la constatation d'un état de choses déplorable et de l'impossibilité d'y rien changer, était accessible aux riches de l'esprit, elle n'était que plus difficilement saisissable aux pauvres, dont la bienfaisante religion calmait plus aisément alors les revendications et les colères. Ces réflexions soulageaient des Hyacinthes d'un lourd poids. Les aphorismes du grand allemand apaisaient le frisson de ses pensées, et cependant, les points de contact de ces deux doctrines les aidaient à se rappeler mutuellement à la mémoire, et ils ne pouvaient oublier ce catholicisme si poétique, si poignant, dans lequel il avait baigné et dont il avait jadis absorbé l'essence par tous les pores. Ses retours de la croyance, ses appréhensions de la foi le tourmentaient, surtout depuis que des altérations se produisaient dans sa santé. Il coïncidait avec des désordres nerveux nouvellement venus. Depuis son extrême jeunesse, il avait été torturé par d'inexplicables répulsions, par des frémissements qui lui glaçaient les chines, lui contractaient les dents, par exemple quand il voyait du linge mouillé qu'une bonne était en train de tordre. Ces effets avaient toujours persisté. Aujourd'hui encore, il souffrait réellement à entendre déchirer une étoffe, à frotter un doigt sur un bout de craie, à tâter avec la main un morceau de moire. Les excès de sa vie de garçon, les tensions exagérées de son cerveau avaient singulièrement aggravé sa névrose originelle, amoindri le sang déjà usé de sa race. À Paris, il avait dû suivre des traitements d'hydrothérapie pour des tremblements des doigts, pour des douleurs affreuses, des névralgies qui lui coupaient en deux la face, frappaient à coups continus la tempe, aiguillaient les paupières, provoquaient des nausées qu'il ne pouvait combattre qu'en s'étendant sur le dos dans l'ombre. Ces accidents avaient lentement disparu, grâce à une vie plus réglée, plus calme. Maintenant, il s'imposait à nouveau, variant de forme, se promenant par tout le corps. Les douleurs quittaient le crâne, allaient au ventre, ballonnées dur, aux entrailles traversées d'un fer rouge, aux efforts inutiles et pressants. Puis la toux nerveuse, déchirante, aride, commençant juste à telle heure, durant un nombre de minutes toujours égal, le réveilla, l'étrangla au lit. Enfin, l'appétit cessa. Des aigreurs gazeuses et chaudes, des feux secs, lui parcoururent l'estomac. Il gonflait, étouffait, ne pouvait plus, après chaque tentative de repas, supporter une culotte boutonnée, un gilet serré. Il supprima les alcools, le café, le thé, but des laitages, recourut à des infusions d'eau froide, se bourra d'assafoétida, de valériane et de quinine. Il voulut même sortir de sa maison, se promena un peu dans la campagne, lorsque vinrent ses jours de pluie, qui la font silencieuse et vide. Il se força à marcher, à prendre de l'exercice. En dernier ressort, il renonça provisoirement à la lecture, et, rongé d'ennui, il se détermina, pour occuper sa vie devenue oisive, à réaliser un projet qu'il avait sans cesse différé, par paresse, par haine du dérangement, depuis qu'il s'était installé à Fontenay. Ne pouvant plus s'enivrer à nouveau des magies du style, s'énerver sur le délicieux sortilège de l'épithète rare, qui, tout en demeurant précise, ouvre cependant à l'imagination des initiés des au-delà sans fin, il se résolut à parachever l'ameublement du logis, à se procurer des fleurs précieuses de serre, à se concéder ainsi une occupation matérielle qui le distrairait, lui détendrait les nerfs, lui reposerait le cerveau, et il espérait aussi que la vue de leurs étranges et splendides nuances le dédommagerait un peu des chimériques et réelles couleurs du style que sa diète littéraire allait lui faire momentanément oublier ou perdre.